Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Bienvenue sur cette libre antenne du dimanche soir sur le thème du divorce. En France, 45% des mariages finissent par un divorce. Ça fait pratiquement un couple sur deux qui se sépare. 130 000 personnes divorcent chaque année dans notre pays. Sans compter bien sûr les ruptures, les séparations des couples pacsés ou en union libre. Ça veut dire aussi que plus d'1,5 million d'enfants vivent dans des familles recomposées. Le plus souvent, ce sont les femmes qui demandent le divorce. Pourquoi ? Eh bien, en priorité pour des histoires d'infidélité, un tiers des demandes. Arrive ensuite l'égoïsme du partenaire, le manque d'affection, 22% des demandes, le mauvais caractère à l'origine de 15% des séparations, et puis dans l'ordre, les comportements abusifs comme une trop grande jalousie, les désaccords concernant l'avenir, les problèmes d'argent et les beaux-parents en cause quand même dans un peu plus de 10% des divorces. Eh oui, divorce douloureux, séparation compliquée, situation hallucinante, quand le couple éclate, il y a des choses à dire. Alors venez en parler librement ce soir sur l'antenne d'Europe 1, venez prendre la parole en appelant le 3921. Amandine et Hassan sont prêts à vous accueillir au standard et à vous guider jusqu'à moi. Plus que jamais, c'est une émission interactive. Ce soir, venez réagir aussi par SMS au 73921 en commençant par le mot nuit. Fabrice Fougeroux est à la réalisation. Nous avons 2 heures pour échanger ensemble sur ce thème du divorce et de la séparation.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Et le premier appel que je prends ce soir est celui de Justine qui était mariée depuis 40 ans. Bonsoir Justine.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue sur cette libre antenne.
Merci.
Alors racontez-moi votre histoire.
Ah ben, ce que je disais, ouais, donc ça fait 40 ans que nous étions mariés et au mois de septembre, mon mari a demandé m'a dit qu'il voulait qu'on se sépare.
Mmh.
Voilà.
Vous avez dit ça dans quel contexte, comment ?
Il me l'a annoncé par message.
SMS ?
Oui.
Ah oui, c'est élégant ça.
Très élégant, oui. Oui.
Mais quel était le contexte à ce moment-là ? Qu'est-ce qui se passait dans votre couple ?
Oh bah, on est tous les deux à la retraite. Mmh. On vivait normalement, quoi. Enfin bon, avec des hauts et des bas, comme dans tous les couples. Hein.
Des enfants.
Oui, on a 3 enfants et 6 petits-enfants.
D'accord.
Voilà. Donc, au mois d'août, parce qu'on avait une maison à la campagne, donc on y passait 4-5 mois. Voilà. Donc, on avait nos petits-enfants, on avait 3 de nos petits-enfants au mois d'août. Et au mois d'août, donc, pour la rentrée scolaire, je devais les ramener aux parents pour la rentrée scolaire. Et mon mari devait se faire opérer au mois de septembre. Donc, j'ai ramené les enfants à leurs parents et en partant, je lui ai dit « Je reviens pour ton opération fin septembre ». Il m'a dit « Ce n'est pas la peine de revenir, je n'ai pas besoin de toi ». Alors, je ne comprenais pas trop, quoi. Mm-hmm. Donc, je lui ai posé la question, je lui ai dit « Est-ce que tu as quelqu'un ?» Il m'a dit « Non, ce n'est pas le propos ». Donc, ça, c'était le 31 août ou comme ça. Et le 7 ou 8 septembre, j'ai reçu un message comme quoi il voulait qu'on se sépare.
Il disait quoi, ce message ?
Qu'il avait pris la décision qu'on se sépare. Voilà.
Ah oui, comme ça. Ah oui.
Voilà, bon, que ça faisait quelque temps, que ça n'allait plus, que voilà, enfin bon, des petites choses comme ça, mais bon, sans plus d'explications, quoi.
Sans autre explication que j'ai décidé qu'après 40 ans.
Voilà, donc je lui ai dit, t'as rencontré quelqu'un, voilà. Donc après, j'ai découvert, bien sûr, qu'il avait rencontré quelqu'un, enfin, qu'il avait retrouvé quelqu'un.
Il vous l'a avoué tout de suite ou pas du tout ?
C'était difficile, hein. Mais bon, à force de recherche, j'ai trouvé, hein. Et puis, moi, j'ai toute ma famille qui est en province. Je sais très bien que, voilà, il est parti pratiquement dès le lendemain que moi, je suis partie. Hein. Il a fait sa valise et il est parti habiter... chez sa nouvelle copine, qu'il avait rencontrée, soi-disant, enfin, qu'il avait retrouvée depuis le mois de juin, par les réseaux sociaux.
Retrouvée, c'est-à-dire c'est quelqu'un qu'il connaissait depuis longtemps ? Enfin, qu'il avait connu il y a longtemps ?
Non, qu'il avait connu quand ils avaient une dizaine d'années, quand ils partaient en vacances. Les parents étaient amis, donc ils partaient en vacances ensemble, quoi.
Dans quel état étiez-vous, Justine, quand vous avez découvert quand vous avez lu son message à lui ?
Effondrée.
Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait ? La première chose que vous avez fait, c'est quoi ?
Ah ben, je lui ai dit que voilà, si c'était sa décision, donc j'ai dit de bien réfléchir et que j'allais prendre mes dispositions, quoi. Voilà. C'est-à-dire demander le divorce, hein, que je voulais que je fasse d'autres. Voilà.
Quelle est la première personne à qui vous en avez parlé ?
À mes enfants.
Oui.
Ils n'ont pas compris.
Comment est-ce qu'ils ont réagi, eux ? Vous leur avez dit la vérité, c'est-à-dire à savoir qu'il était parti s'installer chez quelqu'un ?
Oui. Oui, de toute façon, ils m'ont dit que s'il n'avait pas rencontré quelqu'un, il ne serait jamais parti. Donc,
Et comment ça s'est passé alors dans les jours et les semaines qui ont suivi ce moment-là ?
Oh ben, c'était très dur, hein, mais bon, j'ai mes enfants qui sont près de moi, donc ils m'ont beaucoup soutenue dans les démarches, quoi, pour savoir, parce qu'il fallait que je me loge, plein de choses, quoi. Mm-hmm. Régler des problèmes financiers, donc parce qu'on avait une résidence secondaire, donc qu'on avait encore à crédit, donc il fallait qu'on partage les charges et tout ça, donc on a fait tout ensemble avec les enfants. Mais j'en avais parlé à mes enfants, mais lui, il ne voulait pas trop leur dire, donc je l'ai obligé, je lui ai dit qu'il était obligé de... Enfin, qu'il le dise à ses enfants, et tout comme à sa mère, parce que sa maman vivait avec nous. Et donc, je lui ai dit que ce n'était pas à moi de le dire à sa maman, que c'était à lui à l'informer.
Ben oui, qu'il assume son choix à ce moment-là.
Voilà.
Oui, il l'a fait ?
Oui, il l'a fait, mais quand je lui ai dit que moi, j'étais très, très mal, que ce n'était pas à moi de lui... C'est-à-dire que vis-à-vis de sa maman, moi, j'étais très malheureuse, parce que bon, sa maman, ça fait plus de 40 ans que je la connais, hein. Et il m'a dit, tu es bien pressée de ce que j'annonce à ma mère. Ben, j'ai dit non, parce que moi, je suis dans une position très délicate, parce que en plus, c'est moi qui m'occupe de sa maman en tant qu'aidant. Voilà, donc je lui ai dit, moi, je suis dans une très mauvaise position, donc il faut que tu lui dises.
Mais évidemment, vous ne pouvez pas faire semblant non plus. Hein.
Ça ne peut pas me... Voilà, moi, je suis restée... donc, il a bien mis une bonne dizaine de jours à lui dire, quoi. Donc, bien sûr, elle a été effondrée, elle aussi. Elle n'a pas compris. Enfin, personne n'a trop compris, quoi.
Vous en êtes
où ? Surtout que cette personne, ils ne se sont pas vus pendant 50 ans, quoi. Enfin, je trouve ça complètement aberrant. À moi, ce que je lui ai demandé, est-ce qu'il ne l'avait pas revu entre-temps ? Il m'a dit qu'il m'a certifié que non. Enfin, bon, après...
Oh non, ça peut arriver. Vous savez, c'est un coup de cœur ou quelque chose qui
50 ans après,
irrationnel.
50 ans après, on peut aller vivre chez une personne sans l'avoir revue, sans rien. Moi, j'ai du mal à y croire.
Malheureusement, la preuve en est, mais ça, après, c'est son histoire à lui. Mais vous, aujourd'hui, la procédure, elle en est où ?
Ah ben, je pense que le divorce va être prononcé là dans quelques temps, là, dans quelques mois, là, je pense.
Et comment est-ce que vous avez reconstruit votre vie alors ? Vous avez déménagé ?
Oui, j'ai trouvé un appartement, oui. Mmh. Oui. Voilà, et puis ben, j'ai mes enfants autour de moi et mes petits-enfants.
Mais vous vivez seule aujourd'hui ?
Oui.
Et comment est-ce que vous envisagez la suite ? Est-ce que vous imaginez qu'un jour, il pourrait y avoir quelqu'un d'autre ?
Pour l'instant, des fois, je m'imagine, mais j'ai du mal.
Oui.
J'ai beaucoup de mal, oui.
Et quelles sont vos relations avec votre ex-mari, là ? Si tant est qu'il y en ait encore ?
C'est un petit peu tendu quand même.
Et
surtout au point de vue, au point de vue financier, toujours elle me fait des reproches. Enfin bon voilà, c'est parce que j'ai demandé une pension compensatoire, j'ai demandé des choses et il a beaucoup de mal à accepter quoi. Mais bon, je crois que je lui ai dit, hein, moi je suis dans mon droit. Hein, lui, il vit chez cette personne. Il ne paye pas de loyer. Enfin, bon, je veux dire, il m'a dit, je participe à la vie de la maison. Bah, j'ai dit, encore heureux, quoi. J'ai dit, moi, j'ai un loyer à assumer. Hein. Je suis sur la région parisienne. C'est pas facile à assumer, hein, un loyer sur la région parisienne. Hein. Donc, voilà. Donc, oui, mais à chaque fois, c'est surtout au point de vue financier. Quoi,
c'est ça, le point d'achoppement, oui. Justine, oui, on va continuer à parler de tout ça. On fait juste une courte pause, si vous le voulez bien. Merci beaucoup, à tout de suite.
Envoyez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 en tapant nuit au 739 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1, nous parlons des divorces ce soir, divorce, séparation, rupture. Si vous souhaitez témoigner, prendre la parole, appelez-moi au 3921 jusqu'à 1h du matin. Justine,
oui.
On est en train de se dire que le point d'achoppement, et je crois que ça va bien sûr être une chanson connue pour beaucoup, c'est l'argent. Ça devient le nerf de la guerre le plus souvent. Hein.
Oui. Oui.
Est-ce que vous avez été bien entourée par un avocat, bien conseillée?
Oui.
Comment est-ce que vous avez fait pour trouver cet avocat ou avocate?
Ah bah j'ai regardé un petit peu celle qui s'occupait vraiment des droits de la famille, du divorce. Mm-hmm. On a des très bons contacts. Enfin, j'ai un très bon contact avec elle. Oui.
Ça me paraît extrêmement important, ça.
Oui. Non, bah là je connais. Bon, je suis allée une ou deux fois avec une de mes filles qui vient d'avoir des jumeaux. Et elle m'a demandé, quand ma fille a accouché, elle lui a présenté ses félicitations. Enfin bon, on a un très très bon contact. Un très bon contact, oui.
Il y a Colombe qui a envoyé un SMS pour vous qui dit « C'est élégant de rompre après 40 ans par SMS. Les ruptures sont toujours de mauvais moments, mais tellement de manque de respect, c'est odieux. Je vous souhaite du courage. Voulez-vous que je vous envoie mon numéro pour converser ?» Signé Colombe.
Oui, si elle veut, oui.
Bon, on vous transmettra son numéro. Colombe, oui, merci beaucoup. Si vous pouviez laisser par SMS votre numéro, Amandine les transmettra à Justine.
D'accord. Et par contre, alors, moi, ce que j'apprends beaucoup, c'est quand on va passer... parce que, finalement, on fait un divorce à l'amiable. Hein, je suis arrivée à ce que je voulais. Mm-hmm. Et j'apprends beaucoup le moment de la signature.
D'être face à lui?
Oui.
Ouais, l'idéal, ça serait de pouvoir vous préparer ça. Vous avez un thérapeute qui vous aide en ce moment aussi pour ça?
Non.
Ça serait peut-être bien de faire une ou deux séances avant ce rendez-vous-là.
Oui.
Pour vous booster.
C'est vrai que quand j'y pense, ça me...
Ouais, c'est pour ça. C'est presque du coaching, vous savez. Ça se fait.
Oui, je m'en doute.
Non, mais c'est vrai. Ça se fait. Vous pouvez le faire avec beaucoup de thérapeutes pour vous préparer moralement, mentalement à ce moment-là. À garder votre calme, à garder la tête haute, à dire ce que vous voulez dire, parce que souvent, on finit par se prendre les pieds dans le tapis parce qu'on est nerveux, nerveuse. Ça peut se préparer, ça, avec des thérapeutes. Hein. Ou des coachs.
Je ne sais pas, parce que maintenant, ça se passe chez le notaire. Apparemment, le divorce à l'amiable... On ne passe pas devant le juge.
Oui, mais vous serez tous les deux dans un bureau.
Avec les avocats, normalement.
Et ça vous angoisse?
Ça m'angoisse beaucoup de me retrouver face à lui.
Bien sûr, c'est tout à fait compréhensible. Et rassurez-vous, quasiment tout le monde, enfin toutes les femmes qui subissent ça sont dans la même situation avec ce même ressenti. C'est à la fois désagréable, c'est humiliant, c'est stressant. On dort pas la veille.
Oui, je m'en doute.
Alors, des conseils tout simples, vraiment, faites-vous aider. Il y a des coachs pour ça, il y a des thérapeutes aussi qui s'occupent de ça. Et puis surtout, débrouillez-vous pour être le mieux possible. Faites-vous belle, maquillez-vous, allez chez le coiffeur la veille.
Oui.
Vous savez, on dit toujours qu'il vaut mieux faire envie que pitié, surtout dans ces moments-là. Ça paraît bête, mais c'est vraiment important. Quelquefois, on voit des femmes qui sont tellement désespérées qu'elles arrivent pas maquillées, le cheveu gras. Elles n'ont plus envie, mais à ce moment-là...
Non, parce que justement, j'ai pas pensé à du... Enfin, non, je pense tout à fait, oui, effectivement, à mon entrée...
Exactement. C'est aussi une manière de reprendre le dessus.
Plus à mon avantage que faire croire que je suis malheureuse et tout ça. Non.
Même si à l'intérieur, c'est encore en vrac, c'est important même
pour... Oui, c'est beaucoup en vrac parce que j'avoue que... J'ai quand même encore, je pense, des sentiments. Quoi. C'est pas mort encore.
Puis on ne vous a pas demandé votre avis dans cette histoire. Quoi. C'est vraiment très soudain. Hein.
Non, et puis là, dimanche prochain, ça sera nos 40 ans de mariage. Et c'est vrai que là, c'est, toute cette semaine, là, c'est très dur.
Et vous pourriez peut-être symboliquement vous faire un cadeau à vous-même pour vous offrir un nouveau départ.
Non, mais ce que je dis à mes filles, je vais lui envoyer parce que j'ai un de mes frères qui a le qui est né le 2 juin. Et je voulais lui envoyer un message, bon anniversaire. à mon ex. Mais bon, je me dis après, ça ne sert à rien. Donc. Mes filles, elles m'ont dit, maman, tu ne prends pas la tête.
C'est ça.
Ça
ne
sert à rien. Il ne le mérite pas, de toute façon. Donc, depuis le mois de septembre, il a vu que ses enfants, ses petits-enfants, deux fois. Ma fille qui a accouché en février, elle est venue la voir qu'au mois d'avril, alors que depuis des années, il lui disait, oh, quand est-ce que tu me veux faire un deuxième petit-fils, tout ça. Et il n'est même pas venu la voir. Quoi. Enfin, c'est,
Alors, je comprends que tout ça tourne en boucle et que vous ayez spontanément envie de juger ou de critiquer ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, ce qu'il dit ou ce qu'il ne dit pas. Mais croyez-moi, pour vous reconstruire, la seule attitude positive, c'est de lâcher prise sur lui et de vous occuper uniquement de vous.
Oui. Donc, moi, je m'occupe beaucoup de ma fille qui a des jumeaux parce que la pauvre, elle est complètement débordée. Mais de temps en temps, c'est vrai que quand il a le chic de m'envoyer des messages à 19h le soir, tout ça pour me pourrir, comme on dit, la nuit. Donc, c'est un petit peu, des fois, je me dis, j'y pense pas. Et puis, bon, il refait un truc qui automatiquement me remet dans le... Voilà, qui me perturbe, quoi.
Oui, bien sûr, et c'est complètement normal. Mais si vous le pouvez, à chaque fois que ça arrive, recentrez-vous sur vous. Mm-mm. N'attendez pas...
Ah, mais maintenant, je ne lui réponds plus. J'attends qu'il m'envoie un message, si c'est urgent, voilà, s'il a besoin de quelque chose. Parce qu'un jour, il m'a appelé 10 fois, quoi. Alors j'ai dit, je lui répondais pas parce que j'étais occupée, je ne pouvais pas répondre. Et ma fille, elle me dit, mais maman, si c'est urgent, il t'envoie un message et puis c'est tout. Hein.
Donc, il a appelé 10 fois sans laisser de message.
Non, il ne laisse pas de message, non.
Ah oui.
Donc à un moment, j'ai répondu, parce que je me suis dit, bon. Il m'a dit, c'est très incorrect de ne pas me répondre. Je lui ai dit, si je ne te réponds pas, c'est que je ne peux pas répondre, c'est tout.
Puis il me semble qu'au niveau de la correction, il est mal placé pour vous donner des leçons. Hein.
Exactement, parce que je pense que s'il a un truc à me dire, maintenant il a compris, si je ne réponds pas, il laisse un message. J'ai quelque chose à demander, ou alors des fois c'est urgent, alors c'est juste pour un papier. Parce qu'il est parti, il n'a pas de papier, il a tous les documents qui le concernent, ils sont restés sur la région parisienne. Hein, donc, quand il a besoin de papier, ou s'il y a des démarches à faire, c'est moi qui suis obligée de les faire, quoi. Alors quand je dis que des fois, j'en avais un petit peu ras-le-bol de faire tous les papiers et tout ça, il me dit, t'es toujours en train de te plaindre, tout ça. Je dis non. Je dis, je constate, c'est tout. Oui.
Je suis en train de penser à vous. Je ne sais pas si vous connaissez ce très joli livre de Patricia Delahaye qui s'appelle « Comment guérir du mal d'amour ?» où elle explique les 5 étapes à traverser pour une reconstruction après un divorce. Elle parle du temps de la souffrance, ensuite du temps des peurs et du chaos, du temps des bilans, du temps de tourner la page et du temps des nouveaux bonheurs. Son livre s'appelle « Comment guérir du mal d'amour ?» Patricia Delahaye. Ça vous ferait peut-être du bien de découvrir ce texte-là.
Oui, je vais le noter. Oui.
Patricia Delahaye, « Comment guérir du mal d'amour ?»
Oui,
et en fait, les étapes, c'est un peu comme les étapes d'un deuil. On sait, quand on a un divorce à surmonter, qu'il y a des étapes.
Mais moi, franchement, j'aurais préféré qu'il... Bon, c'est dur à dire. Hein. Mais je me dis, il serait décédé au moins. On tourne... C'est dur, mais on n'a pas à le revoir. On n'a pas tous ces soucis de papier, de choses. Enfin, on a des soucis de papier, mais c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est idiot à dire, hein, mais c'est comme ça, quoi.
Alors, c'est la partie de vous qui est en colère qui parle.
Oui, je sais.
Mais c'est humain. Hein.
Oui, donc c'est humain, oui, c'est sûr.
C'est extrêmement violent ce que vous avez vécu.
Oui, et je dis heureusement que j'avais mes enfants, heureusement. Et qui ont pris parti, c'est pas forcément pris parti, mais bon, vu son comportement, ils ne peuvent pas approuver ce qu'il a fait, quoi. Parce qu'ils ont, comme ils lui ont dit, si tu avais fait les choses correctement, après tout, bon, peut-être que tes sentiments pour maman ne sont plus, t'as plus de sentiments pour elle, mais pas faire comme tu as fait, quoi.
Et c'est l'inélégance du geste qui en a rajouté encore, quoi.
Oui. Comme on dit, mais jeter comme une vieille chaussette, quoi. alors que j'étais toujours là pour lui, que j'ai toujours...
Mais vous savez quoi,
bon, il m'avait trompé il y a... Les enfants étaient petits. Hein.
Ah.
Donc j'ai passé l'éponge. Je crois que j'avais fait quand même beaucoup d'efforts. J'ai continué à... Voilà.
Maintenant, c'est de vous dont vous allez vous occuper, pas de lui.
Non. Oui, je sais.
Parce qu'à vous entendre, j'ai l'impression que vous avez beaucoup donné.
Oui, beaucoup.
Et que peut-être là, c'est un moment de la vie où il est temps de vous donner à vous-même tout ça.
Oui, mais c'est pas évident à envisager.
C'est un apprentissage, ça je vous le confirme.
Oui.
Mais c'est important. Et vraiment, allez voir un thérapeute déjà pour vous préparer à cet affrontement, peut-être pas un affrontement, mais à ces rendez-vous qui sont pas faciles.
Mm-hmm.
Et même quitte à faire quelques séances aussi pour passer à autre chose après, pour tourner la page.
Oui, parce que même lui, il ne voulait pas se déplacer, parce que il est resté en province, puisque ça. Son ami est en province, il ne voulait même pas venir pour signer les papiers du divorce.
Bon, parce que j'imagine que pour lui non plus, ce n'est pas forcément un moment facile.
Ah oui, mais l'avocat, elle a dit que s'il voulait un divorce à l'amiable, il est obligé de se déplacer.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Il ne peut plus jouer par SMS, là.
C'est pas un moment facile, mais c'est lui qui a choisi. Hein,
bien
donc, c'est l'assume.
Bien sûr. Et il a lieu quand, ce rendez-vous?
Ah, je ne sais pas encore. Là, ça fait... Non, là, je pense que ça va être juin, juillet, je pense. Enfin, j'espère. Parce qu'aussi, il me tarde que ça soit fait, que cette page soit tournée.
Bien sûr.
Et de toute façon, je lui ai dit, hein, si tu assumes, tu as pris des décisions, maintenant, tu les assumes. Hein. Parce qu'un jour, il m'a dit, est-ce que tu voudrais que je revienne? J'ai dit, non, c'est pas la peine. Je lui ai dit, la porte, elle est fermée, c'est fini.
Ah, il vous a demandé ça? Il assure ses arrières?
Oui. Ouais. Tout comme il garde tous les contacts avec toute ma famille. Toute ma famille qui est en province, mes frères, tout ça, il garde plein de contacts avec eux.
Et comment ça se passe avec les amis, des deux côtés?
Ah ben, les amis, de toute façon, ils étaient sur la région parisienne. Hein, donc, lui, il a tout laissé tomber. Hein, je vous dis, il appelle même pas son frère qui est sur la région parisienne. Il donne des nouvelles à personne.
Mais vous, les amis sont toujours là pour vous?
Oui. Moi,
ça, c'est important. Gardée.
Oui. Là, je suis même partie en vacances. Enfin, les amis, c'est surtout des... c'est les parents de les beaux-parents de mes enfants. Mais bon, on s'entend très bien et on part en vacances ensemble. Voilà.
Vous êtes entourée, ça, c'est essentiel.
Oui. Oui, de ce côté-là, j'ai pas à me plaindre. Non, ça va.
Et vous savez que de toute épreuve, on tire un apprentissage et on apprend à avancer autrement. C'est une nouvelle partie de votre vie là qui commence.
Bah oui.
Où vous allez vous occuper de vous, prendre soin de vous. Et quand vous serez de nouveau bien avec vous-même, vous rencontrerez probablement quelqu'un avec qui vous serez bien aussi.
Oui, mais bon, pour l'instant, j'ai du mal à envisager cette...
C'est normal. C'est complètement normal.
Et puis même l'imposer... Enfin, c'est pas l'imposer à mes enfants, parce que tout de suite, ils m'ont dit, maman, si toi, un jour... tu rencontres quelqu'un, on sera très content pour toi et il n'y aura pas de souci. Hein.
Oui, mais je comprends, j'entends ce que vous me dites, c'est chaque chose en son temps. Pour l'instant, là, c'est l'étape de la reconstruction.
Oui.
Terminer, fermer une page avec lui et en ouvrir une nouvelle avec vous-même, juste avec vous. Ah, Justine? Allô? Ah, je crois qu'on a un petit problème de téléphone. Bon, on fait une petite pause, on voit si on peut récupérer Justine ou pas. À tout de suite.
Laissez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 au 3921, 50 centimes la minute.
Qu'attendez-vous pour aller chez Renault?
Dans la vie, il y a des moments à ne pas rater. En mai, profitez d'offres exceptionnelles comme Renault Captur à partir de 129 euros par mois avec EasyPack. Entretien avec pièces d'usure, assistance et garantie inclus pendant 4 ans. Mais pour en profiter, c'est seulement jusqu'à la fin du mois.
Pour Captur Life TCE 90, LLD sur 49 mois, 40 000 km avec un premier loyer de 2000 euros jusqu'au 31 mai si accordiac. Voir Renault.fr.
Et nous parlons de divorce et de séparation ce soir sur la libre antenne d'Europe 1. N'hésitez pas à appeler si vous souhaitez prendre la parole, 3921. Malheureusement, on n'a pas réussi à récupérer Justine qui semble avoir un problème de batterie sur son téléphone. Et donc, c'est Isabelle que j'accueille maintenant. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci.
Vous avez une toute petite voix.
Oui, parce que c'est dur en fait.
Alors racontez-moi ce qui vous arrive.
C'est dur parce que c'est le fait que de me rappeler de tout ce qui se passe, en fait. Mmh. Donc, du coup, c'est dur. En fait, je suis mariée depuis 23 ans.
Oui.
Mon mari, il paraît le mari parfait, c'est-à-dire qu'il m'aide, il est gentil comme tout et tout. Et d'un autre sens, il est changeant. Un exemple, déjà d'une, il ne parle pas, comme j'ai eu des témoignages que vous avez, parce que je vous écoute souvent. Et des témoignages d'hier ou avant-hier, des maris qui ne parlaient pas.
Oui, effectivement, le mari mutique.
Voilà. Mm. Mais en fait, il ne parle pas. Un exemple, il parlera de choses qui diverses, de ce qui se passe à la radio ou autre. Mais par exemple, un exemple, ma sœur viendra par exemple me voir. Elle venait me voir à l'époque, parce que maintenant j'ai plus de contact. Elle venait me voir à l'époque, il pourra ne pas lui dire bonjour. Mmh. Et ça, à tout le monde. Et après, quand elle lui demande pourquoi, il ne vous répond pas, il part.
Mais est-ce qu'il était comme ça quand vous l'avez connu ?
Malheureusement, oui. J'ai réfléchi après, oui, depuis toujours, en fait. Ça a toujours été.
Mais il vous a plu quand même avec ce tempérament-là au départ ?
Disons que j'avais beaucoup de doutes et tout. Et je ne voulais pas rester avec lui parce qu'en plus, il mentait et tout. Et je ne voulais pas rester avec lui. Mais ma maman, à l'époque, me disait si tu pars de lui, vu que j'avais déjà eu quelqu'un d'autre avant, tu auras de mauvaise renommée et tout ça, ça ne va pas. Donc, en quelque sorte, j'étais, entre guillemets, un petit peu obligée.
Vous avez eu peur du qu'en dira-t-on ?
Voilà.
Bon. Et vous avez tenu 23 ans comme ça ?
Après, j'ai eu mon fils. Mmh. Puis bon, en quelque sorte, puis j'ai mes parents, donc ça, en quelque sorte, ça me comblait, ça allait quoi.
Mais c'était pas.
Donc
c'était...
mes parents, je suis née aussi en pré-décès, donc du coup, c'était assez délicat pour tout ça.
Pardon, j'ai pas compris. Vous êtes née après ?
Après décès.
Après la mort de qui ?
De ma sœur.
Ah oui, donc vous êtes née dans un contexte émotionnel lourd et compliqué déjà.
Un an après, oui. Après, ma maman est en dépression, elle est enceinte de moi.
D'accord.
Et donc, mes sœurs, mon père, tout ça, ne m'acceptait pas. Pour vous dire à tel point, quand ma sœur, par exemple, qui ne disait pas bonjour et tout ça, c'est pas eux qui en prenaient, c'est pas lui qui en prenait, c'était moi. En même temps, ma maman me disait, oui, mais il n'écoute jamais, donc qu'est-ce que tu veux qu'on lui parle ? Voilà, donc.
Et qu'est-ce qui s'est passé alors après 23 ans ?
Donc après, j'ai perdu ma maman en 2012. L'appareil n'était pas là du tout pour moi, en fait. C'était pas... Il était complètement absent.
Oui.
Mais par contre, en revanche, par exemple, il fera le ménage, il fera à manger, il fera tout ça. Et il est embauché au chômage en 2010. Et là, donc moi, j'étais travaillée parce que j'étais nourrice agréée. Mais nourrice agréée, ça ne gagne pas beaucoup. Mmh. Donc, je ne pouvais pas. Donc, avant, j'élevais mon fils, plus j'étais nourrice. Et ça gagnait pas assez, donc j'ai dû prendre un vrai travail, parce que lui, il trouvait pas. Et j'ai pris un vrai travail, et lui, il allait plus travailler, en fait. Mmh. Et au début, je me rendais même pas compte que... Enfin, bref, et puis... Donc, en 2012, j'ai perdu ma maman. Là, j'étais en dépression. Et... Ensuite, en 2015, j'ai eu un accident de travail. Et lui, en fait, moi, je ne me rendais pas compte. C'est que lui, il prenait le dessus sur la maison. Parce que moi, je rentrais, j'avais à manger sur la table. Mais bon, je travaillais du matin tôt au soir tard. Donc, d'office, lui, il prenait le dessus sur la maison. Donc, du coup, moi, en fait, quand je faisais plus de ménage, je faisais plus à manger, je faisais plus rien à la maison. Et j'allais travailler.
C'était comme si les rôles étaient inversés, on dirait.
Oui, voilà. Mmh. Et quand je rangeais quelque chose, par exemple, il me le rangeait toujours autre part, toujours, et ça. Mais je ne me rendais même pas compte, en fait. Et en 2015, j'ai eu mon accident de travail. Donc après, j'étais aussi à la maison. Bon, au début, j'avais été telle douleur que ça a duré bien un an et demi, que c'était vraiment l'horreur. En même temps, le docteur, il disait comme quoi que ça pouvait être aussi à cause du stress. Est-ce que c'était ça ? qu'en fait, je disais comme quoi que j'étais en dépression par rapport à ma maman. Mais la semaine, ça allait très bien quand je travaillais et tout ça. Arrivé le week-end, ça n'allait pas.
Oui, donc il y avait quand même déjà une relation très lourde et très difficile entre vous deux, là.
Oui, voilà.
Et qu'est-ce qui s'est passé, alors?
Et donc, en 2015 aussi, mon fils, il disait, maman, papa, il est insupportable. Il a dit, quand t'es pas là, il gueule tout le temps. Parce que ça aussi, il gueule tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il dit qu'il a le droit, il a le droit de râler tout le temps, il a le droit à tout, en fait. Et on doit tout supporter. Un exemple, on est en train de regarder un film ou n'importe, mais lui parlera dedans, mais c'est normal, il a le droit.
Ça ressemble à un comportement d'un manipulateur.
Oui.
Souffler le chaud et le froid, comme ça, en alternance.
Oui.
Je suis gentil, mais je fais ça, mais...
Oui. Et mon fils, il est parti en prépa.
Oui, dites-moi...
Parce qu'en plus, le problème, c'est que maintenant, je commence à avoir du mal, parce que plus que c'est vers le récent, et plus que j'ai du mal à parler, en fait, et je m'embrouille. Alors, donc, si vous arrivez à me...
Oui, ce que j'aimerais savoir, c'est à quel moment ça a lâché? Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, je m'embrouille, en fait. Oui. Bah, après, on n'avait plus de relations sexuelles non plus depuis longtemps. Mm-hmm. Parce qu'en fait, moi, j'avais mal au ventre quand... ça paraît, je me demande si c'est pas aussi inconsciemment.
Je pense que oui. Hein.
Un rejet.
Quand on est tendu à ce point-là et que ça va pas dans la tête, forcément, le corps suit. Hein.
Oui, ça fait au moins 4 ans que... Au moins minimum. Mm-hmm. Mais je me rendais compte, mais inconscient. Je sais pas, c'était pas...
Vous avez continué quand même tout ça, quoi. Faire semblant, en tout cas.
Oui. Mais même moi, je me rendais pas compte, en fait.
Jusqu'au jour où?
Et... Donc, mon fils, il est parti en prépa. Déjà, d'une là, c'était déjà dur de perdre mon fils. Et je me dis, mais merde, mais maintenant, je suis avec lui et... Je fais quoi avec lui, quoi? Voilà, un petit peu, c'est ça.
Oui, c'est violent comme terme. Vous n'avez pas perdu votre fils, il est parti vivre sa vie d'étudiant, ce qui est normal. Mais là, du coup, vous êtes retrouvée vraiment en couple, et plus en maman.
Oui.
Et il a fallu affronter vraiment cet homme, en fait.
Oui. Mmh. Et le week-end, à chaque fois que mon fils y rentre, il me fait vivre l'horreur. Donc du coup, mon fils, il ne veut même plus rentrer trop. Il est mal à la maison.
Mais j'ai un peu de mal à comprendre, Isabelle. Vous en êtes où avec cet homme-là? Vous avez entamé une procédure? Vous divorcez? Vous vous séparez?
Oui, déjà depuis un an que j'ai déjà fait une procédure.
Et c'est vous qui avez demandé le divorce?
Oui.
D'accord. Et comment est-ce qu'il l'a pris, lui?
En fait, il fait comme si rien n'était. Comme si c'était pas vrai. Comme si. En gros, il me fera manger, il fera le ménage, il fera tout. Et le week-end, il est méchant. Et la semaine, et donc dès que mon fils y part, un exemple, il me fera. Il m'a fait un pâté en croûte pour dire tiens, tu vois, je t'ai gâté.
Mais attendez, la procédure en est où?
Justement, moi, c'est pas mon plus gros problème. On était donc devant le juge. Ça fait déjà un an, donc on est devant le juge. Et. Non, ça fait un an. Depuis le 8 février, j'ai demandé un logement social. Et ça aboutit pas, en fait, parce qu'il n'y a pas de place dans les logements sociaux. Et ils disent, même la députée, elle a dit, c'est minimum 2 ans, voire même plus. Donc, et dans le privé, j'arrive pas à avoir de logement parce que je gagne que 790 €. Et les propriétaires ne font pas confiance, en fait, parce que je gagne pas assez. Et que j'ai pas un garant fiable. Alors, du coup, je me retrouve dans une situation pas possible que je suis obligée de rester avec lui, vivre. Voilà.
En attendant de pouvoir avoir un toit. Mais comment est-ce qu'il se comporte tous les jours? Est-ce qu'il a été violent physiquement avec vous?
Non.
Non.
Non. C'est que moral, en fait. C'est que moral que je suis pas bien. Parce qu'il me... il n'est pas gentil moralement, quoi. Parce qu'un exemple, il sera aussi capable de dire, comme par exemple, avant, je sortais le chien, pourquoi être mon fils? Là, il va et puis il me dit, si c'était après mon opération, j'étais opérée des intestins. Il m'a dit, maintenant si tu restes à la maison, tu ne sors pas, tu es avec nous. Et du coup, mon fils, il a dit, eh ben, oui, maman, toi tu restes à la maison, toi tu remarches très trop doucement. Et donc, du coup, maintenant, il sort, non plus avec moi, le chien. Donc, du coup, je suis 24 sur 24 à la maison tout seul.
Il y a deux choses que je ne comprends pas très bien, Isabelle. Vous me dites qu'il n'est pas gentil, mais en même temps, vous ne pouvez pas attendre d'un mari dont vous divorcez qu'il soit gentil. C'est curieux, à partir du moment où vous demandez le divorce, c'est un peu logique qu'il ne soit pas gentil.
Oui.
Il n'était déjà pas avant, de toute manière, donc il ne va, pas le devenir après.
Non.
Et la deuxième chose, je vous sens très soumise aussi à ses désirs, à ses ordres, à ce qu'il dit. Pourquoi est-ce que vous vous laissez faire comme ça? Ce n'est pas à lui de décider ce que vous avez à faire, à ne pas faire, à sortir, à ne pas sortir, à dire ou à ne pas dire.
Parce que je n'ai pas de choix, parce que là, mon fils était avec pour sortir le chien. Donc il lui dit que je dois rester à la maison, et à mon fils aussi. Donc, s'il ne veut pas sortir le chien avec moi, mon fils, ce n'est pas ma faute, quoi. C'est pas, je ne peux rien faire d'autre.
Non, mais le chien, c'est anecdotique. Mais de manière générale, pourquoi est-ce que vous êtes soumise à cet homme comme ça? Il vous fait peur?
Parce que je ne peux pas sortir non plus.
Et pourquoi?
Je
ne
peux pas sortir non plus parce que j'habite une petite commune et je n'ai pas de moyens de locomotion, je n'ai rien. Je ne peux pas rouler en voiture non plus, donc c'est très difficile.
Et comment vous faisiez avant?
J'ai le permis, mais je ne peux pas rouler. Bah avant, je pouvais rouler avant mon accident.
Et il n'y a pas de bus, de train?
Il n'y a pas beaucoup de bus, non.
Oui, enfin, est-ce que vraiment, enfin, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est plus la peur qui vous bloque pour l'instant, qui vous paralyse un peu.
Bah, je sais pas. Moi, c'est ce que je sais, surtout partir.
Ça, j'entends bien, mais pour l'instant, si j'ai bien compris, les dossiers sont sous une pile et il faut attendre qu'il y ait de la place.
Voilà.
Oui. Ça, c'est toujours le gros problème. Techniquement, vous avez le droit de partir, mais pratiquement, vous n'avez rien trouvé pour l'instant.
Voilà. Et ça dure très, très, très longtemps. Parce que j'ai déjà été chez les instances sociales, chez les députés, chez tout.
Pour faire avancer les choses.
Ouais. Il n'y a rien du tout qui avance.
Isabelle, je vais devoir faire une courte pause le temps des infos. Vous ne bougez pas, s'il vous plaît?
Oui,
je vous récupère juste après. À tout de suite. Vous écoutez Europe 1. Il est minuit. Et c'est vous, Sophie Tussaud, qu'on retrouve pour un dernier point sur l'info. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Sabine, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, les résultats des élections européennes. Le RN arrive en première position, suivi de La République En Marche et des Verts en troisième position. Édouard Philippe dit avoir entendu le vote des Français. Les Républicains actent leur défaite.
Europe 1.
La liste Rassemblement National emmenée par Jordan Bardella arrive en tête des élections européennes avec entre 23 et 24,2% des voix devant La République En Marche qui recueille entre 21,9 et 22,5%. La liste écologiste Europe Écologie Les Verts arrive en troisième position. Elle est créditée entre 12,5 et 13% des voix. Alors à l'issue du score du Rassemblement National, Marine Le Pen, très offensive, a appelé à une dissolution de l'Assemblée nationale et avant elle, c'est la tête de liste Jordan Bardella qui s'est exprimé un discours de victoire.
Cette mobilisation inédite dans une élection européenne depuis plus de 25 ans témoigne d'un sursaut populaire contre le pouvoir en place qui subit ce soir un véritable échec. J'adresse toute ma gratitude à l'ensemble des Français qui nous ont fait l'honneur de leur soutien en plaçant le Rassemblement National en tête de ces élections européennes. Le peuple français a infligé ce soir une sanction claire, ainsi qu'une leçon d'humilité au président de la République qui a choisi d'engager toute son autorité dans la campagne. Le président de la République a transformé ce scrutin en plébiscite. Il a réussi. Ce soir, c'est lui et sa politique qui sont rejetés.
Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National. La majorité de son côté prend acte. La liste LREM arrive donc en deuxième position. Édouard Philippe, le Premier ministre, dit avoir entendu le vote des Français.
Les Français ont placé l'extrême droite en tête. Je ne serai jamais dans le camp des indifférents et je ne veux pas banaliser ce résultat de l'extrême droite qui, élection après élection, s'enracine dans le paysage politique français au point d'en devenir l'une des grandes forces politiques. Il ne suffit pas de parler de colère, de rejet et de crise. L'extrême droite consolide ses positions et beaucoup de nos compatriotes ont le sentiment que l'heure est aux solutions de repli. Ce message est fort et nous l'avons reçu 5 sur 5. Comme nous avons reçu le message de nombreux Français sur l'urgence écologique. Pour ma part, j'accueille ces résultats avec humilité. Quand on termine deuxième à une élection, on ne peut pas dire qu'on l'a gagné. Avec humilité, mais aussi avec beaucoup de détermination. Dès demain, je serai à pied d'œuvre pour poursuivre le projet du président et de la majorité.
Le Premier ministre Édouard Philippe. La grosse surprise de ce scrutin est donc la poussée verte réalisée par Europe Écologie Les Verts de Yannick Jadot. Sa liste arrive en troisième position.
Nous sommes ce soir la troisième force politique en France. Probablement avec des scores identiques, voire parfois supérieurs, en Allemagne, en Belgique et ailleurs. C'est donc bien une vague verte européenne dont nous sommes les acteurs ce soir. Les Françaises et les Français nous ont envoyé un signal très clair. Ils veulent que l'écologie aussi soit au cœur de notre vie. Notre responsabilité est aujourd'hui, forte de ce résultat, de nous dépasser pour bâtir le grand mouvement de l'écologie politique capable de conquérir le pouvoir et de l'exercer.
Yannick Jadot, candidat Europe Écologie Les Verts. Alors, victoire des écologistes, échec des Républicains. La liste emmenée par François-Xavier Bellamy s'effondre avec entre 8 et 8,5%. Le candidat estime que la droite traverse une crise profonde.
L'enseignement que je tire de ce résultat, c'est d'abord la crise profonde que traverse notre démocratie. Aujourd'hui, nous pouvons nous accorder ensemble sur un constat. De très nombreux électeurs se sont exprimés d'abord pour voter contre la politique menée par Emmanuel Macron ou contre le risque de voir monter le Rassemblement national. Or, une démocratie ne peut trouver un équilibre durable quand elle n'offre que des élections par défaut, quand un bulletin de vote ne sert qu'à éliminer. Nous ne pouvons laisser la France s'enliser dans ce désespoir politique. Cela montre l'ampleur de la tâche qui reste à accomplir. La droite traverse une crise profonde. Tout est à reconstruire.
François-Xavier Bellamy, Laurent Wauquiez également a pris la parole. Le président du parti, Les Républicains, rejette la faute de ce revers sur Emmanuel Macron. Autre défaite, celle de la liste La France Insoumise, portée par Manon Aubry. Elle est au coude à coude avec la liste PS Place Publique. Toutes deux sont créditées entre 6,2 et 6,7% des voix. La participation pour ce scrutin européen est en forte hausse, entre 51 et 54%. Selon les instituts de sondage, c'est 7 à 10 points de plus que lors du précédent scrutin de 2014. Voilà pour les résultats français. Ailleurs en Europe, en Italie, la victoire historique de la liste d'extrême droite, la Ligue de Matteo Salvini, créditée entre 27 et 31%. En Espagne, large victoire des socialistes. En Allemagne, le centre droit d'Angela Merkel est donné en tête, mais touche un plus bas historique. Les Verts réalisent une percée à plus de 20%. Et l'extrême droite est donnée à plus de 10% au Royaume-Uni. C'est le parti du Brexit qui est en tête avec 31,5%. À la suite de tous les résultats européens, la droite pro-européenne estime avoir emporté ce scrutin et réclame la présidence de la Commission. Dans le reste de l'actualité, ce projet d'alliance entre Renault et Fiat Chrysler, l'annonce devrait être faite ce lundi matin avant l'ouverture de la bourse. Ce rapprochement pourrait donner naissance à un nouveau géant mondial de l'automobile. À l'étranger, trois Français condamnés à mort en Irak, verdict de la cour de Bagdad pour leur appartenance au groupe État islamique. Selon la loi irakienne, ils ont 30 jours pour faire appel. Et puis l'actualité de ce dimanche marquée également par le tournoi de Roland-Garros dont Europe 1 est la radio officielle avec le retour gagnant de Roger Federer, l'exploit côté français de Nicolas Mahut qui a renversé l'italien Marco Cecchinato en 5-7 et puis c'est fini en revanche pour le français Hugo Humbert et l'allemande Angélique Kerber, la numéro 5 mondiale. La météo, Valérie Darmon, comment s'annonce la semaine ?
Eh bien, ça s'annonce contrasté avec demain, lundi, une perturbation atlantique qui traverse la France avec des pluies éparses de la Nouvelle-Aquitaine à la Lorraine. Seuls les bords de la Méditerranée vont échapper au mauvais temps, la Corse étant toujours au cœur d'une dépression. Mardi et mercredi seront les deux journées les plus perturbées de cette semaine avec le passage d'une nouvelle perturbation avec des pluies parfois soutenues du sud-ouest aux frontières de l'Est. et de la neige sur les Alpes à partir de 2000 mètres. Vous retrouverez des éclaircies au nord de la Loire. Mercredi, un temps variable et sec se réinstalle partout, alternant éclaircies et averses. Près de la Manche et de la Méditerranée, le soleil va se montrer très généreux. Et puis la fin de semaine s'annonce ensoleillée et chaude. L'anticyclone Zasor apporte une amélioration nette, une remontée des valeurs dans le sud avec 30 degrés annoncés pour le week-end prochain en Aquitaine et 25 au nord dimanche prochain dans l'après-midi. Donc en début de semaine, c'est la valse des perturbations et en fin de semaine, c'est le retour du soleil.
Le retour du soleil, il est minuit passé de 8 minutes sur Europe 1 et c'est la suite de la Libre Antenne avec Sabine Marin.
Europe 1, 23h, 1h, la Libre Antenne, Sabine Marin.
Cette nuit de dimanche, nous sommes ensemble sur la Libre Antenne d'Europe 1. Il nous reste une petite heure à passer ensemble, une heure à partager des moments de vie, à échanger en toute sincérité ce soir sur le thème du divorce, de la séparation, des ruptures. Vous pouvez continuer à nous appeler jusqu'à 1h du matin si vous souhaitez intervenir. Un seul numéro de téléphone, le 3921. Vous intervenez aussi par SMS en tapant le 739-21 et en commençant bien par le mot nuit.
23h, 1h, la Libre Antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Vous êtes là, Isabelle ?
Oui.
Ça va un peu mieux ?
Oui, ça va un peu mieux.
J'étais en train de me dire, vous savez, je pense que vous avez hérité de beaucoup de tristesse et peut-être même d'un fond dépressif de votre maman et de ce qu'elle a vécu quand vous étiez dans son ventre.
Ben ça, oui, ça, j'étais chez un psychologue par rapport à ça.
Mmh.
Il y a... Avant que mon fils... juste après que mon fils soit né. Et en fait... On m'a dit que moi, que c'est le fait que j'étais née après un décès, que ça a fait que... Et là, le docteur, de toute façon, au mois de septembre, je vais à l'hôpital pour ça. Aussi, pour la dépression.
Oui, c'est ce que j'entends dans votre voix, dans votre histoire, c'est que vous avez hérité de beaucoup de choses qui sont très lourdes et très tristes, mais qui ne sont pas à vous. Et que vous traînez un peu comme des gros sacs qui sont lourds, quoi. Et c'est bien
mais
que vous
bon,
en ayez conscience.
Ça n'empêche pas le fait que je puisse vivre avec mon mari, quoi. C'est pas par rapport.
Ça n'empêche pas, pardon, je ne vous ai pas compris.
Que je puisse vivre avec mon mari. Et
bien
que...
sûr, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien que vous ayez compris déjà que sur le fond, le terrain chez vous, vient, que ça peut venir aussi de là et que c'est important de travailler là-dessus.
Oui.
Après que vous ayez demandé le divorce, ça veut dire que vous êtes prête maintenant aussi à prendre votre place, à vous assumer seule, à vous libérer d'une relation qui ne vous convient pas.
Hein. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt, en fait, déjà d'une femme mariée. Et... Parce que déjà, même quand je l'ai connu, un exemple, j'allais le voir, il me jetait la porte au nez, c'était déjà pas normal.
Non, mais j'ai bien compris, en fait, que dans votre histoire, ce qui s'est passé, comme c'est souvent le cas, c'est que vous vous êtes réfugiée dans votre rôle de maman et dans votre relation avec votre enfant.
Oui, oui, tout à fait, parce que, en fait, quand mon fils il est là, je suis heureuse. Quand mon fils n'est pas là, je suis malheureuse.
Et vous avez mis des œillères tant qu'il était là pour ne pas voir vraiment en face ce qui se passait avec votre mari, mais quand vous avez été seule avec lui, ça vous a un peu explosé à la figure, tout ça.
Oui. La seule chose que j'ai remarquée, c'est que j'aurais pas dû accepter tout ça, parce qu'en fait, mon fils, il est devenu un petit peu pareil. Et j'aurais pas dû accepter ça. Et maintenant, c'est à mon fils de travailler sur lui pour enlever tout ça.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, mais de voir déjà que vous réagissez, ça peut changer des choses pour lui.
Il râle pareil, il fait tout pareil. Ah. Je pense qu'il en a déjà pris conscience, je pense. Ah. Parce qu'il est très intelligent et je pense que ça va aller dans le bon sens.
Bon, bah, tant mieux.
Pour mon fils, j'ai pas trop peur parce que j'ai eu une bonne discussion avec lui. Et de lui-même, je sais pas. Bon, après, il a fait une prépa, il est en fac.
Ah, mais il réussit, c'est formidable ça.
Il réussit. Et je pense que plus ou moins, soit je sais pas, avec les profs ou avec les. Ou avec ses amis, je ne sais pas avec qui. Mais en tous les cas, ils doivent parler de choses beaucoup plus, personnel et je pense qu'il a fait en quelque sorte comme un travail sur lui-même.
Bon, c'est déjà bien tout ça. Et vous êtes en train d'en faire un aussi. Vous allez vous faire hospitaliser en psychiatrie, c'est ça?
Oui.
Pour souffler un peu, vous poser et puis travailler sur vous?
Ça s'appelle un stage de rupture et il pratique justement ce que vous dites toujours, le EMDR.
Ça, c'est bien. Quand est-ce que vous y allez?
Au mois de septembre. J'ai demandé d'aller au mois de septembre après les vacances, quand mon fils y reprend la fac, en fait.
Mais écoutez, ça me paraît une très bonne chose. Focalisez-vous sur des choses positives. Votre fils qui réussit, qui commence déjà à analyser des choses. Vous qui allez travailler sur vous, ça va être un nouveau départ pour vous, vous allez voir.
Oui. Hein? Mais le problème, c'est que je suis obligée de tenir un an avant pour le logement. Quoi.
Ça, malheureusement, ça...
Ce qui me fait le plus, c'est horrible.
Il y a Michel qui a envoyé un message en disant « Est-ce que vous êtes allé voir les élus de la commune où vous voulez habiter ? Est-ce que vous avez essayé de prendre rendez-vous avec des élus locaux ?»
Non, ça, j'ai jamais essayé, non.
Elle vous conseille ça. Peut-être qu'en prenant rendez-vous, en vous manifestant un petit peu, ça peut booster votre dossier, on ne sait jamais.
Ah oui, ben, je la remercie. Mmh. Oui. Parce que j'ai pensé aux députés, mais ce n'est pas des députés de la ville où que je veux habiter. Mais c'est en fait les députés de ma circonscription. Et mais ils disent que même en m'aidant, ça ne sera pas avant 2 ans.
Oui, mais bon, plus on bouge, plus on fait parler de soi, plus les choses avancent quand même. Malheureusement, il faut se battre chaque jour. Il faut trouver l'énergie pour se battre chaque jour. Et c'est ça qui est toujours un peu plus difficile.
D'accord. Mais les élus, vu que c'est une grande ville, il faut écrire.
Vous pouvez essayer de prendre rendez-vous par téléphone aussi. Mais vous pouvez aussi écrire, raconter votre histoire, écrire. Raconter votre désarroi, votre urgence.
Bah, écrire mon histoire, j'ai du mal parce que, en fait, quand j'écris, j'ai assez souvent, un exemple, je l'écris, expliquer mon cas à l'avocate, je l'ai écrit, j'arrive même pas à me relire, en fait. C'est tout. Je comprends rien du tout à ce que j'ai écrit.
Alors, demandez rendez-vous par téléphone à ce moment-là. Dites que vous êtes en grand désespoir, que vous avez besoin de rencontrer quelqu'un d'urgence pour parler de cette situation et que ça ne peut plus durer. Vous savez qu'au pire, il y a aussi des foyers quand même qui peuvent vous accueillir. Vous avez demandé de l'aide à une assistante sociale?
Oui. Elle ne m'aide pas du tout, en fait.
Bah justement, c'est ça qui m'a mis un peu dans votre histoire.
Au contraire, je leur dis... encore là, je vais téléphoner. Elle m'a dit, mais je vous ai déjà vu 3 fois depuis le mois d'août. Donc, voilà.
Et vous savez aussi que vous avez...
Parce que là, je leur ai demandé, parce que j'ai entendu, j'ai vu sur Internet, j'ai téléphoné, il y avait Adoma qui loue des logements sociaux, en quelque sorte. Mais à la base, c'est que pour les SDF. Mais ils disent comme quoi que c'est aussi pour les gens qui n'ont pas beaucoup de ressources. Donc je leur ai demandé, mais seulement il faut que le dossier soit fait par l'assistante sociale. Alors déjà, tu n'as été déjà contre parce que c'était que pour les SDF. Alors je dis oui, mais ils m'ont dit que. Et donc elle était déjà contre. Elle a quand même accepté de me recevoir au mois de juin. Là, je veux l'avoir. Mais elle avait du mal à le faire, quoi.
Oui, si elle n'est pas très efficace. Mais vous savez que sinon, si vous n'êtes pas bien entouré, il y a beaucoup d'avocats qui donnent des consultations par téléphone. Vous pouvez avoir des consultations juridiques de gens qui peuvent vous aider, vous orienter vers les bonnes structures par téléphone. Vous tapez sur Internet « consultations juridiques par téléphone » et vous aurez des numéros d'appel pour consulter des gens, des avocats qui sont spécialisés dans tous ces problèmes-là. Hein, peut-être ça peut vous aider à avancer un peu.
J'ai aussi un autre souci. Il me fait une catastrophe au niveau des comptes bancaires. Et il s'en fout complètement, en fait. Alors, l'avocate, elle m'avait dit comme quoi que j'étais pas. Qu'en quelque sorte, on a des comptes séparés maintenant, puisque on a déjà vu le juge. On a déjà fait la conciliation, je ne sais plus comment ça s'appelle, la première fois chez le juge. Mais du coup, je suis quand même tributaire de lui, parce que l'électricité, l'eau ou quoi qu'il paye, ou le téléphone de mon fils. Du coup, si c'est pas payé, il nous coupe à nous, quoi. Donc, je suis quand même tributaire de lui, en fait.
Isabelle, il y a quelqu'un qui nous dit que si vous avez un certificat médical, vous pourrez partir plus vite.
J'ai déjà fait un certificat médical. Je savais pas que c'était possible de partir plus vite, Mais j'avais demandé au docteur qu'il me fasse un certificat médical. Et je l'ai donné aux bailleurs sociaux.
Bon, écoutez,
c'est aux bailleurs sociaux qu'il fallait le donner.
Oui, tout à fait. Mais moi, je vous invite quand même à consulter par téléphone des différentes personnes, différents avocats. Petite consultation juridique. Hein ? Ça coûte pas très cher, ça coûte entre 1 et 4 euros la minute. Vous pouvez passer 5-10 minutes avec quelqu'un qui vous donnera des conseils très précis sur votre cas.
D'accord.
Hein, Isabelle, il va falloir qu'on se quitte parce que j'ai beaucoup de gens qui attendent derrière. Tenez bon.
D'accord.
Hein, c'est une question de temps, mais vous êtes en train de changer de vie et c'est le meilleur qui vous attend après.
J'espère.
D'accord.
Oui. Je vous remercie.
Je vous embrasse, Isabelle.
Merci.
Au revoir.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Bonsoir Nicole.
Bonsoir Sabine.
Merci d'avoir patienté jusque-là. Je suis ravie de pouvoir vous accueillir.
Ben écoutez, je suis très heureuse de pouvoir enfin vous parler et voilà, vous faire part de mon témoignage.
Alors racontez-moi un peu votre histoire à vous.
Alors, mon histoire, c'est l'histoire d'une femme qui a divorcé il y a 14 ans maintenant, voilà. Et quand j'écoute Isabelle juste avant, j'ai l'impression de me retrouver un petit peu, effectivement, dans son histoire, enfin, dans les débuts, enfin, dans le fait qu'elle soit dans un désarroi. Mais il faut se dire qu'il y a un après, effectivement.
Mais c'est ça, c'est qu'il y a une période où on est un peu coincé. Théoriquement, vous avez droit à un logement social rapidement, mais quand il n'y en a pas,
voilà.
Il n'y a pas d'autre choix que d'attendre la plupart du temps.
Ouais, puis il faut savoir effectivement, comme vous le disiez, téléphoner partout, quoi.
Faut
faire appel aux différents services sociaux qu'il y a dans les communes, les mairies. Enfin,
alors, qu'est-ce qui vous est arrivé à vous ? Ça faisait combien de temps que vous étiez mariée ?
Alors, ça faisait 15 ans. Et en fait, on était très jeunes quand on s'est connus. On était, tout juste deux jeunes adultes. Enfin, moi, j'étais encore en adolescent. Voilà. On s'est connus très, très jeunes et... Donc, on est restés 15 ans ensemble, on a eu deux enfants rapidement. Enfin, une vie comme beaucoup de gens, enfin voilà, on crée sa petite famille, on a sa maison, enfin, voilà, le travail, la maison, les enfants, comme beaucoup de gens. Et puis la routine s'installe. Hein, l'accident de la vie, comme chez beaucoup, bah, en fait. Voilà, l'adultère, et là je découvre effectivement que...
L'adultère, c'est chez lui ?
Chez lui, oui. Chez lui, voilà, et en plus, je découvre qu'il me trompe avec une amie.
Amies ?
Oui, une de mes amies.
Comment est-ce que vous le découvrez ?
Je sais pas, on a une intuition, hein, nous les femmes, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Dans le comportement, je ne pensais pas du tout à cette personne-là. Finalement, j'avais une idée sur quelqu'un d'autre et je m'étais totalement trompée de personne. Et après, c'est juste le fait que ça n'aille pas dans mon couple. On parlait sérieusement de divorce. Quand j'en ai parlé à mon entourage, là, on m'a dit oui, mais il a été vu avec telle personne. C'était le pulse qui se reconstituait à ce moment-là et j'ai ouvert les yeux, je me suis dit oui, c'est évident, enfin voilà.
Alors là, c'est une question intéressante que vous soulevez, parce que souvent on se demande quand on voit le mari d'une amie avec quelqu'un d'autre, est-ce qu'il faut le dire ou est-ce qu'il ne faut pas le dire ? Est-ce que vous en avez voulu aux gens qui vous l'ont dit ?
Non.
Non.
Non, pas du tout. Pas du tout, parce que je pense que si moi-même, de mon côté, j'avais été témoin de ce genre de choses, je pense que je l'aurais dit à mon ami ou à l'ami en question, je l'aurais effectivement averti.
D'accord. Voilà. C'est souvent un cas de conscience.
Hein. Oui. Oui, je pense. Alors, c'est vrai que ça fait mal, hein, parce que du coup, comme j'expliquais au standard, je l'ai vraiment vécu comme une double trahison.
C'est ça,
hein,
oui, c'est double peine, là, d'un coup.
C'est double peine, ouais, voilà. Bon, à partir de là, forcément, j'ai lancé le processus de divorce. Lui, il ne voulait pas faire machine arrière. Bon, après, je comprends avec le recul qu'on puisse avoir un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Ça vient avec la maturité.
Votre amie, vous lui avez parlé ?
Sur le moment, elle ne voulait pas me parler. Elle avait peur de moi parce que j'étais en colère. Hein. Forcément, j'étais. Je pense que j'aurais pu être violente même. Hein, faut dire ce qui est, quoi. Mais voilà, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pardonné. J'ai pardonné parce que je les vois en plus. Ils sont toujours ensemble. Donc c'est pour ça, en plus, je me dis que ça n'a pas été un simple adultère. C'est que ça a été véritablement une histoire d'amour entre eux, quoi. Donc. Et on est forcément amené à se voir parce que bon bah nos enfants sont devenus adultes, voilà, il y a des repas de famille, je suis là. On arrive à se voir, on arrive à se dire bonjour. C'est vrai que c'est particulier. Hein,
Vous êtes partie dans un divorce comment pas à l'amiable quand même.
J'ai pas fait un divorce pour faute. Non, on a fait quand même un divorce à l'amiable.
Ah quand même. Ouais.
Oui, voilà, on a réussi à aller au tribunal ensemble, que tous les deux, on avait pris une avocate, le jour du divorce, c'est vrai que ça s'est bien passé, nous on voyait tous les couples qui se déchiraient à côté, qui avaient chacun leur avocat au collège de justice, et nous, franchement, il n'y avait pas du tout de...
Vous avez mieux réussi votre séparation que votre vie commune, alors.
Mais c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, écoute, vaut mieux réussir un bon divorce. On est parents avant toute chose. Mmh. Et voilà, on doit réussir au moins ce côté-là quoi, de notre divorce. Même s'il y a eu des gros moments de difficultés, notamment pour notre fille qui, elle, l'a mal vécu parce que bon, elle était très jeune.
J'allais vous demander quel âge avaient les enfants.
Ben, mon fils, à l'époque, il avait 15 ans. Et ma fille, 9 ans et demi.
Oui.
Et mon fils, ça s'est bien passé pour lui. Voilà. Franchement, ça a été difficile au début, mais ça s'est quand même bien passé. Il a fait une bonne scolarité, pas de soucis. Il a bien réussi. Pour ma fille, ça a été plus difficile, c'est vrai. Voilà. Ça a été, à un moment de l'adolescence, la grosse explosion, la grosse révolte.
Oui, elle voit son papa partir avec une autre femme en plus. C'est compliqué.
Mais en fait, voilà, elle comprenait que finalement, son père ne reviendrait jamais avec moi. Du coup, il y avait l'histoire de rivalité en fait entre elle et sa compagne, à son père. Donc, toutes les deux aimaient le même homme. Donc,
ouais, c'est ça. Vous avez raison. Il y a de ça aussi dans ce genre de relation.
Voilà.
Et vous, Nicole, comment est-ce que vous avez continué ? J'aime pas ce terme refaire sa vie, mais comment est-ce que vous avez continué votre vie ?
Oui, moi c'est ce que je dis. Voilà, je continue ma vie. Bah écoutez, je vis mon célibat par force. Hein, j'ai envie de dire voilà parce que c'est comme ça. Bon, j'ai un tempérament d'être. Enfin voilà, je suis quand même forte. Hein, j'avoue, j'avance. Bon, par moments, j'ai mes fêlures hein, où je m'effondre, hein, obligé. Parce que comme je dis, on s'habitue à être seul, mais on s'habitue pas à la solitude. Hein. Et de temps en temps, ça nous rattrape. Et puis après, sur le plan sentimental, c'est difficile de refaire confiance.
Puis vous l'avez connue très jeune. Donc en plus, vous n'avez pas grandi en tant que femme. Vous avez quasiment grandi en tant qu'épouse rapidement.
C'est ça, voilà. Donc,
il faut réapprendre des choses. Là,
oui. Il faut réapprendre, oui, voilà. Donc ça remonte à 14 ans maintenant. Donc depuis 14 ans que je suis seule maintenant, j'ai redécouvert ce que c'était la vie, les relations.
La séduction, la rencontre.
Et la séduction, qui est très importante.
Et j'imagine que sur le plan physique aussi, c'est compliqué parce que, pardon, je suis un peu la pragmatique, mais c'est vrai, quand on s'est connu très jeune, on ne se protège plus. On est rentré dans une vie d'adulte facilement. Et là, d'un coup, vous revenez à des considérations que vous aviez complètement ignorées avant aussi, j'imagine.
C'est ça, oui. On a l'impression de redécouvrir, de redevenir adulte, finalement, c'est ça.
De réapprendre les codes.
C'est ça, tout à fait.
Ouais.
Donc après, oui, c'est vrai que sur le plan sentimental, me concernant, j'ai jamais revécu en couple depuis, hein, je peux vous le dire. Alors, je veux pas faire peur à toutes ces personnes qui divorcent. Après, moi, c'est un choix de ma part aussi. Hein, c'est que... Bon, j'ai ce souci de perte de confiance. J'étais quand même touchée par ce divorce. Bon, après, j'ai eu une relation, moi, quand même, qui a été suffisamment longue, mais qui m'a aussi finalement abîmée, quoi, sur le plan moral. Et depuis,
Vous êtes verrouillée un petit peu.
Oui. Et j'ouvre plus mon cœur, quoi. C'est compliqué.
Donc, voilà, j'ai des amis hommes, j'ai des amis femmes. Voilà, mais voilà, j'ai pas envie de... d'actuellement, enfin voilà, je suis pas, je suis pas contre, hein, mais bon, j'ai pas trouvé, comme on dit, la bonne personne.
Et vous avez mentionné la confiance en vous. Vous avez l'impression qu'elle est écornée encore, cette confiance-là?
Oui. Oui, parce que la particularité, c'est que la personne que j'avais rencontrée, avec qui j'ai eu une relation, après mon divorce, là, c'est une période où j'ai été opérée, où j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai eu une opération. Voilà. Donc, cette personne, je l'ai connue. Il m'a connue dans une phase où j'étais en pleine transformation physique. Voilà.
Mais c'est pas évident, ça.
Donc, voilà.
Il faut déjà réapprendre à se connaître et à s'aimer soi-même avant de pouvoir accepter.
Oui, voilà. Donc, ça faisait beaucoup, en fait, pour mon mental. Du coup, j'avais du mal, moi, à me reconnaître. Et pourtant, cet homme me mettait en valeur. Il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Et puis, bon, après, il y a eu rupture. Et du coup, moi, j'ai tout remis sur le compte du physique. Donc.
Alors, prenez un peu de recul et dites-vous que c'est pas vrai.
Mais oui, je sais que c'est pas vrai.
Vous avez mis une sorte de fourre-tout, vous avez tout mis dedans.
Oui.
En fait, quand on n'a pas confiance en soi, c'est qu'on n'arrive pas à s'accorder les qualités qui sont les nôtres.
Oui.
Réattribuez-vous vos propres qualités, vos points positifs déjà.
Oui, tout le monde me le dit. Les gens qui me connaissent bien me disent, mais t'as aucune raison de. Ben oui, mais c'est propre à soi, quoi. C'est pas facile de. Je sais que oui, voilà, ce travail, j'essaye de le faire.
Alors, j'allais vous poser la question, vous le faites comment?
Depuis peu, je suis une psychothérapie. Mmh. Voilà, jusqu'à un moment, je n'avais jamais été voir un psychologue. Donc, en fait, c'est libérateur.
C'est ce que j'allais vous dire, ça me paraît important parce qu'il y a des petits réglages à faire, sinon vous allez continuer à tourner en boucle et à répéter les mêmes schémas.
C'est ça. Et franchement, le conseil que j'ai à donner aux gens qui écoutent, c'est ne pas hésiter à aller voir une tierce personne neutre, justement, à notre entourage. Mmh. Parce que c'est bien d'avoir des personnes autour de soi à qui se confier, mais rien n'est mieux que d'avoir affaire à un professionnel.
Bah, comme vous dites, les gens à qui vous vous confiez, c'est bien, mais en même temps, c'est pas leur travail. Ils sont tous impliqués émotionnellement, votre entourage.
C'est ça.
Voilà, et on a forcément un regard qui est faussé. Et puis, c'est pas leur rôle. Le rôle, c'est d'écouter, de soutenir, d'aller faire des choses et des activités avec vous, peut-être. Mais c'est pas un rôle de thérapeute. Les amis sont pas là pour ça.
Et
comme vous dites, le fait d'être neutre, c'est extrêmement important.
C'est ça.
Donc, c'est bien si avec ce thérapeute, vous restaurez cette confiance en vous. Parce que le premier regard à changer, c'est votre regard à vous-même sur vous-même.
Oui, voilà.
Quand ce regard-là aura changé, alors le regard des autres changera et des hommes aussi changera. Et votre regard sur les hommes changera aussi et ça vous permettra d'attirer des relations qui seront plus en équilibre avec ce que vous êtes maintenant. Pas avec celle que vous étiez avant, pas avec celle qui était en chantier à un moment donné, mais avec celle que vous êtes maintenant.
Tout à fait,
En tout cas, vous avez un joli sourire, Nicole.
Ah ben merci.
Vous avez l'air de quelqu'un de positif.
Oui, je le suis. Il faut.
Et je vous souhaite vraiment d'avancer sur ce chemin-là, de nettoyer ce qui doit l'être avec votre thérapeute.
Merci, c'est gentil, Céline.
Et puis de rencontrer le bon derrière. Puis quand vous le rencontrerez, appelez-moi pour me raconter.
Eh bien d'accord.
On fera une spéciale rencontre amoureuse.
D'accord, très bien.
Amandine me glisse dans l'oreille qu'on a pas mal d'appels pour vous, des gens qui aimeraient entrer en contact. Si vous le permettez, on vous laissera leurs coordonnées. C'est à vous de juger ce que vous en faites ou pas. D'accord.
Je veux bien, pas de souci, avec plaisir. Je vous remercie.
Merci à vous, Nicole. Je vous embrasse.
Bonne soirée. Moi aussi, je vous embrasse. Salut.
Au revoir.
Au revoir.
Et sur cette libre antenne spéciale divorce, séparation et rupture, j'accueille mon premier homme ce soir. Ludovic, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Allô?
Oui, je vous écoute, je vous entends.
Oui, bonsoir. Voilà, moi je vous appelle parce que je suis complètement perdu avec ce qui m'arrive.
Qu'est-ce qui vous arrive?
Ça fait 14 ans que je vis avec une femme que j'aime profondément. Et elle m'a expliqué il y a 8 mois que parce qu'elle avait un petit changement d'attitude en fait. Et elle m'a expliqué que notre fils étant parti à la fac, Elle avait du mal à accepter cette séparation entre notre fils et la maison, en fait. Le fait qu'ils partent comme ça et qu'ils s'installent avec une copine.
Vous n'avez qu'un enfant ensemble ?
Non, on en a quatre.
Ah, oui.
Et en fait, c'est le plus grand qui est parti s'installer avec sa copine.
Mm-hmm.
Mais elle était perturbée et elle m'expliquait que c'était à cause de ça.
Qu'est-ce que vous appelez des petits changements d'attitude, par exemple ?
Ben, elle s'est mise à changer son alimentation pour maigrir alors qu'elle n'était pas grosse. Elle a voulu sortir avec des amis alors qu'elle ne le faisait pas. Elle a pris des distances avec moi.
Et vous avez réagi sur le coup ou c'est plutôt après en analysant les choses avec le recul ?
Non, moi j'ai essayé de comprendre. J'ai essayé de lui dire que en fait je l'ai laissé faire comme elle voulait parce que en fait la discussion était très la communication est très compliquée. On a vécu 15 ans ensemble. Enfin, 14 ans, mais à chaque fois que je m'oppose à ce qu'elle peut dire, elle me dit c'est fini. Donc, obligatoirement, à chaque fois que je lui parle, je prends des gants. Je fais très attention à ce que je dis, parce que j'ai pas envie qu'elle finisse par me dire c'est fini, et puis bloquer la situation comme ça, et puis après, c'est impossible de discuter. Donc, mais quoi qu'il arrive, à chaque fois, en fait, ça finit comme ça parce que moi, j'ai mon caractère aussi. Il y a des moments où j'en ai marre d'être obligé de prendre des gants, quoi. Donc, au final, pendant cette période, elle m'a expliqué qu'elle voulait faire le point avec elle-même, en fait.
Oui.
Donc, elle m'a demandé de m'en aller. Alors moi, je voulais pas partir parce que...
Il y avait encore trois enfants à la maison, si je comprends bien.
Bah, il y a toujours trois enfants à la maison, oui.
Oui.
Donc moi, je voulais pas, mais au final, je me suis dit peut-être que c'est la solution pour qu'elle puisse faire le point avec ce qu'elle pense, quoi, avec ce qu'elle a.
Faire une pause, oui.
Ouais, faire une pause, ouais.
Mm-hmm.
Et en fait, ça dégénère parce que je suis tellement amoureux, malgré ces 15 ans passés avec elle, je l'aime toujours autant, toujours, toujours. Et j'ai l'impression que plus je lui fais voir que j'ai peur de la perdre, et plus je la perds.
Concrètement, vous êtes parti vivre où ?
Pas très loin, je suis parti vivre... dans la maison de mon père, en fait, parce que mon père est décédé il y a 3 ans. Et j'avais cette maison que je voulais pas habiter, parce que c'est la maison de mon père, et j'ai des souvenirs qui sont pas spécialement... le fait qu'il soit décédé, tout ça, parce que je suis quelqu'un qui a perdu toute sa famille, déjà. Donc, je suis seul, hein, j'ai plus personne. Donc... Je voulais pas habiter dans cette maison, mais quand il y a une quinzaine de jours, on s'est disputé pour une bêtise. Hein. Je sais même plus pourquoi. Enfin, c'était une broutille. Et elle m'a dit, c'est fini. Faut que tu t'en ailles.
Oui, donc c'est tout récent. Ça fait 2 semaines seulement que vous êtes parti.
Oui, je suis parti, mais j'y vais tous les jours parce qu'elle me demande de venir.
Pour quelle raison ?
Pour les enfants, pour comme ça. Alors, bah, moi, j'y vais pour voir mes enfants, etc. Et puis, en fait, ça se passe comme si j'habitais encore là-bas, sauf que le soir, je rentre chez moi. Donc, du coup, bah, moi, je souffre de la situation et je lui dis, écoute, ça fait plusieurs fois qu'on s'accroche parce que moi, je lui dis, c'est bien de réfléchir, c'est bien de d'être comme ça, mais il faudrait peut-être faire quelque chose. Il faudrait peut-être consulter un thérapeute, faire quelque chose.
Vous seriez prêt à faire une thérapie de couple ?
Là, en fait, aujourd'hui, je lui ai téléphoné parce qu'en fait, il y a un mois de ça, elle m'a parlé d'une thérapie de couple. Alors, je lui ai dit, bah ouais, moi, je suis d'accord. Et au final, elle m'a expliqué que ça coûtait très cher, 400 euros, elle m'a dit. Alors, comme il n'y a que moi qui travaille dans la maison, 400 euros avec nos enfants, etc., c'est beaucoup trop cher, on ne peut pas se le permettre.
Oui.
Donc, je lui ai dit, bah écoute, on va essayer de se débrouiller comme ça, sans le faire. Et puis, moi, je n'ai pas vérifié parce que je passe beaucoup de temps à mon travail. Et puis, aujourd'hui, ce matin, vu que j'étais tout seul dans ma maison, là, j'ai regardé sur ma région thérapie de couple. Et puis, j'ai trouvé 40 thérapeutes dans ma région.
Avec des tarifs probablement bien en dessous.
Voilà.
Mais oui.
Donc, je l'ai appelé et puis je lui ai dit, j'ai commencé à essayer de lui faire comprendre que ce serait peut-être bien d'avancer et de prendre un thérapeute de couple pour... Et elle m'a dit, tout simplement, elle m'a dit, écoute, tu commences à m'emmerder, c'est parce que t'as peur, en gros, j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'elle me reproche de penser à moi, mais je pense pas qu'à moi, en fait, moi, je pense à notre famille, je pense à notre vie, à ce qui est en train de se briser, sans réelle raison. Je bois pas, je fume pas.
Est-ce que vous avez envisagé qu'elle ait rencontré quelqu'un ?
Elle a rencontré personne, j'en suis sûr et certain.
Oui. Alors qu'est-ce qu'elle veut d'après vous, là ? Qu'est-ce qu'elle attend ?
Eh ben, elle m'a dit, tout me fait chier, tout le monde m'emmerde, j'en ai marre de tout. Voilà, en fait, c'est un peu ça. Bon, en fait, ça va tellement dans tous les sens que moi, je suis perdu. Alors, j'ai des amis qui m'ont dit de penser à moi et de m'éloigner, etc.
C'est ce que j'allais vous
le
dire.
Problème,
mais oui,
le problème, c'est que j'ai tellement peur que ça se termine que j'ose pas m'éloigner. Parce que moi, je tiens à elle. Je tiens à elle
Sauf que
énormément.
Le comportement,
je tiens à la maison.
Le comportement que vous avez avec elle en ce moment ne fait que l'éloigner encore plus.
C'est ça.
Donc c'est pas une solution.
Oui, je sais. En fait, je le comprends, mais
vous n'arrivez pas à l'intégrer. Quand je vous entends, j'ai l'impression qu'il y a une grosse blessure d'abandon dans votre histoire de vie. Qui crée chez vous une dépendance affective. Vous avez une peur panique d'être seule.
En fait, je vais essayer de vous parler d'une chose qui a été très dure dans ma vie. Alors, je vais essayer. Je sais pas si je vais y arriver. En fait, ma femme, elle représente pour moi l'idéal. Voilà. Mais pas que physiquement. Déjà, physiquement, elle représente l'idéal pour moi. Mais en plus, moralement, elle représente l'idéal pour une raison précise. Alors après, c'est sûrement parce que j'ai un problème quelque part. Elle est vierge comme ma petite sœur. Et j'ai perdu ma petite sœur quand elle avait 27 ans. Et quand j'ai perdu ma petite sœur, ça a été une destruction intérieure parce que j'ai pas eu le temps de la voir avant qu'elle parte. J'ai pas eu le temps de lui dire au revoir. Et on a vécu tellement de choses, ma sœur et moi, que on a eu une enfance très difficile. Je l'ai toujours protégée et ce jour-là, j'étais pas là.
Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette petite fille ?
Ma sœur est décédée d'une maladie grave. Elle avait une mucoviscidose.
Mmh.
Elle a été greffée trois fois. Et
Mais vous n'y étiez pour rien, vous me dites que j'étais pas là ce jour-là, mais c'était écrit ça.
Ben, en fait, oui, mais j'aurais voulu être là pour lui dire au revoir.
Pour lui tenir la main.
Oui.
Elle avait quel âge quand elle est partie?
27 ans.
Ah oui, 27 ans. Et vous, combien d'écart d'âge?
On a 4 ans d'écart. J'avais 31 ans.
D'accord.
Et en fait, ma petite sœur, en fait, ma femme ressemble à ma petite sœur dans son caractère, dans sa façon d'être, dans tout ça. Donc du coup, je me suis accroché à elle logiquement, en fait.
Bah, logiquement, pas vraiment. C'est parce que vous n'avez pas soigné ce deuil. Vous n'avez pas traversé le deuil jusqu'au bout. Et vous avez compensé un petit peu. C'est presque une histoire de remplacement.
J'ai pas rencontré ma femme immédiatement, en fait, après. Mais quand je l'ai rencontrée, si vous voulez, ça a fait tilt. Ouais. C'est vrai que voilà, mais sûrement ce que vous dites, vous avez raison, parce que à force de réfléchir, j'essaie d'analyser les choses et je me rends bien compte qu'il y a des choses, mais je peux pas penser que j'aime ma femme parce que elle ressemble à ma sœur.
C'est pas aussi simple que ça, mais vous avez déposé
juste un élément.
Vous avez déposé sur votre femme les sentiments et l'amour que vous aviez pour votre sœur. Vous avez superposé deux histoires en fait, et c'est probablement pour cette raison qu'aujourd'hui l'abandon est deux fois plus douloureux.
Oui, tout à fait. Oui. Elle me dit, elle m'a dit, ma femme, que mon amour était trop fort et qu'elle avait du mal à le supporter.
Oui, probablement, parce que si vous l'avez compris, c'est un double amour, en fait. C'est un amour à la fois de frère qui cherche quelque part à recréer quelque chose qui n'existe plus, et un amour ensuite de mari pour sa femme. Il y a deux histoires dans une histoire, là, dans votre vie. Et objectivement, on peut comprendre que pour votre femme, ça peut être lourd aussi à porter, ça.
Oui, mais je comprends. Je comprends.
Alors, vous parliez tout à l'heure de thérapie de couple, mais est-ce que vous avez fait une thérapie pour vous, tout seul ? Pour travailler là-dessus?
Non, j'en ai pas fait, mais j'ai appelé. En fait, ce matin, j'étais tellement mal, une fois que j'ai eu ma femme au téléphone et qu'elle m'a dit que c'était fini encore une fois. J'avais appelé avant, en fait. Parce que.
Appelé qui?
J'ai appelé un thérapeute.
Oui.
J'ai regardé sur Internet et j'ai appelé. La dame m'a dit. Que c'était dimanche, je lui ai dit que j'étais désolé. Comme sur Internet, c'était pas marqué que c'était fermé, ben j'ai appelé.
Mmh.
Et j'ai dit que je rappellerai demain. Et après ça, après ce coup de téléphone, j'ai appelé mon épouse pour lui proposer cette thérapie de couple. Et c'est de là qu'elle s'est mise en colère et qu'elle m'a dit que c'était fini, encore une fois. Et du coup, moi, j'ai passé ma journée à réfléchir. Et à travailler parce que je retape la maison. Et je me suis dit que dès demain, j'allais. Si elle veut rien faire pour. Parce qu'elle, elle va pas bien. Elle va pas bien, pas que à cause de moi.
Mais je crois que vous allez mal tous les deux, en fait.
Voilà, c'est ça.
C'est deux blessés donc, qui se heurtent.
Et si elle veut rien faire, moi, en tout cas, je vais faire quelque chose pour moi parce que je peux pas continuer de souffrir comme ça. J'ai peur de la perdre, j'ai peur de perdre mes enfants, j'ai peur de perdre ma vie. Et je à force d'avoir peur, je détruis, je suis en train de détruire tout. Donc, et pourtant, j'ai pas l'impression de faire du mal, mais ça doit faire du mal. Donc du coup, j'ai décidé de me prendre en main, moi, personnellement, pour me soigner de cet amour qui est trop fort.
En tout cas, je vous trouve extraordinaire, Ludovic, parce que vous avez fait tout seul un chemin fabuleux. Vous avez une compréhension de votre histoire de vie, une analyse que je trouve vraiment fantastique, vraiment.
Je réfléchis tout le temps.
Oui, mais vous réfléchissez bien, parce que vous avez très bien compris ce qui se passe. Et je pense que le problème, la première chose chez vous à travailler d'urgence, c'est le deuil de cette petite fille, de cette sœur qui est partie. Tant que ce deuil-là ne sera pas fait, tant que vous ne serez pas dans l'acceptation et dans l'apaisement.
Mais j'ai accepté, si vous voulez, j'ai accepté, sauf que...
Intellectuellement, j'en suis persuadée, mais moralement, émotionnellement, non.
Oui, sûrement, sûrement. Peut-être parce que j'ai perdu tout le monde déjà et que ça me pèse.
Oui.
Ça me pèse d'avoir perdu mon père, ma mère, mon frère, ma sœur.
Et vous voyez, c'est important le mot que vous utilisez, ça me pèse. Ça veut dire c'est lourd et ça veut dire que ça peut être aussi lourd pour quelqu'un d'autre à l'extérieur, vous voyez.
C'est lourd parce que, vous voyez, aujourd'hui, par exemple, j'ai l'impression d'être seul. J'ai l'impression de pouvoir m'adresser à personne. Et c'est pour ça que je vous appelle, parce que je ne sais pas à qui parler. Alors que si j'avais mes parents ou mon frère ou ma sœur, je pourrais parler, je me sentirais bien.
Ouais, mais
au jour d'aujourd'hui, voilà.
Alors, ce qui est bien, c'est qu'à partir de demain, vous allez avoir quelqu'un.
Oui, je vais appeler pour. Je vais appeler parce que je pense en avoir absolument besoin de me guérir de cet amour. Parce que cet amour me fait souffrir et c'est pas normal que l'amour me fasse souffrir.
Ce qui vous fait souffrir, c'est pas cet amour-là, c'est les multiples deuils que vous avez vécus et une blessure d'abandon qui est béante. Et cette blessure d'abandon, elle vous fait une peur panique, elle vous donne une peur panique d'être à nouveau abandonné. Et donc vous allez travailler sur ces deuils un par un avec un thérapeute. Jusqu'à ce que chaque blessure, chaque deuil cicatrise, pour aborder ensuite une relation avec votre épouse qui sera plus équilibrée, qui ne sera pas dans un besoin. Parce que là, vous êtes dans la dépendance et dans le besoin vis-à-vis d'elle. Or, un couple ne fonctionne que quand on est dans l'envie, pas dans le besoin.
Oui, d'accord.
Pour l'instant,
je comprends très bien ce que vous me dites.
Oui, je vois que vous êtes quelqu'un qui analyse beaucoup et qui comprend bien les choses.
Ben moi, je suis dans l'envie, hein. Je suis dans l'envie, mais je suis partagé en fait.
Et oui.
Parce que j'ai l'impression d'avoir besoin d'elle tout le temps, même si je suis débrouillard et que je fais plein de choses tout seul.
Mais affectivement, vous êtes dans le besoin.
Voilà, c'est ça. Mmh. C'est complètement ça. Dès que ça va mal entre elle et moi, je suis effondré quoi.
Vous redevenez un petit garçon qui a peur que l'autre disparaisse.
C'est fort possible, oui.
Mm.
Je ne m'en rends pas compte, mais je pense que vous avez sûrement raison. En tout cas, ça fait beaucoup de bien de pouvoir parler du problème.
Mettre des mots sur ce qui fait mal, c'est vrai que ça fait toujours du bien.
Oui, c'est parce que je covide depuis 2 semaines que je suis tout seul. Et les soirs, je suis tout seul, je ne dors pas.
Oui.
Je,
au bout d'un moment, ça fait comme une cocotte minute.
Oui, puis vous savez, vous m'avez parlé tout à l'heure, est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un? Elle a rencontré personne, mais j'ai peur qu'elle rencontre quelqu'un. Donc du coup, je pense à ça sans arrêt. Donc ça fait encore plus mal, ça fait encore plus peur.
La peur est la pire conseillère du monde, hein, vous le savez ça.
Oui, ben en plus elle a des mots qui a des phrases qui me détruisent un peu plus quand elle me dit la peur n'évite pas le danger.
Oui, mais d'après ce que j'entends,
ça me rassure pas, quoi.
D'après ce que j'entends, elle aussi elle a des blessures.
Oh ben alors elle a eu une vie encore pire que la mienne, donc au jour d'aujourd'hui, oui, je pense qu'elle est complètement perdue, elle sait plus où elle en est, elle a mal sûrement. Sauf que je pense qu'elle n'est pas prête à s'ouvrir et à faire quelque chose pour elle.
Alors, ce que j'étais en train de me dire, si vous y arrivez, si vous arrivez à respecter ce temps de pause qu'elle vous demande, à lâcher un peu prise, à ne rien lui demander, à être là quand il faut, quand il y a besoin pour les enfants, et c'est tout, à vous occuper de vous, ça peut peut-être, elle, l'inciter aussi à le faire pour elle.
C'est, en tout cas, c'est la décision que j'ai prise aujourd'hui parce que je ça me fait trop mal de l'entendre me dire c'est terminé. Ça fait 3 fois en 15 jours qu'elle me le dit. Et en fait, elle me reproche que je suis pressé. Mais bien sûr que je suis pressé. J'avais une vie normale.
Oui.
Et tout d'un coup, ma vie, elle a basculé dans le noir. Et pourtant, j'ai rien à me reprocher. Donc, du coup, ça, c'est horrible. Donc, du coup, je pense que oui, elle a raison, je lui en demande trop parce que je veux que ça avance. Et je pense qu'elle, elle n'est pas prête. Et pourtant, des fois, je lui dis ce que je suis en train de vous dire, qu'il lui faut du temps, que je comprends. Ça, etc.
Elle appuie sur la pédale frein et vous appuyez sur la pédale accélérateur.
Voilà. Et du coup, à chaque fois que je lui parle de ça, elle s'énerve et puis elle envoie tout balader. Alors bon, je comprends. Hein. Je comprends qu'elle est lassée, que je lui mette la pression. Elle me l'a fait comprendre l'autre jour que je lui mettais la pression. Mais c'est ma peur qui me fait réagir. Donc bien sûr. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de faire quelque chose pour moi d'abord. Et comme vous dites, sûrement que ça va nous servir à nous deux.
Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir, là, dans les jours qui viennent, lâcher un peu cette pression? Ne plus rien attendre et ne plus rien demander?
Ah mais je suis déterminé en fait. Je suis déterminé parce que j'en ai marre d'avoir peur.
C'est ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut faire ça d'abord pour vous. Parce qu'en vous réparant, vous vous donnez toutes les chances que ça refonctionne mieux derrière.
Oui, mais moi, ça me fait souffrir cette histoire. Donc, j'ai pas envie de souffrir. J'ai plus envie. J'ai perdu trop de monde. Ça m'a fait trop souffrir. J'ai plus envie de souffrir. Donc, personnellement, j'ai vraiment envie de faire quelque chose. J'espère que je vais réussir à me libérer du temps par rapport à mon travail pour pouvoir voir un thérapeute.
Bon, vous allez le faire parce que c'est essentiel. Moi, ce que j'espère, c'est que vous allez trouver une bonne thérapeute ou un bon thérapeute. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à changer. Hein. Ce n'est pas dramatique. On peut se tromper de thérapeute, ça peut ne pas fonctionner, il y en a d'autres. Hein. Quelquefois, quand on est dans une urgence comme la vôtre et que ça se passe mal, on arrête tout.
Comment on sait si c'est les bons ou si les mauvais?
Vous le saurez tout de suite. Si en sortant, vous vous sentez en confiance, s'il y a ne serait-ce qu'un début d'apaisement, c'est que ça va aller.
D'accord.
Hein? Ça, c'est important. Écoutez-vous.
Oui.
On sait très bien soi-même si ça passe ou si ça passe pas. Ludovic, je suis désolée, l'émission se termine.
Oui.
J'espère que ça va aller, que déjà d'avoir parlé un peu, ça vous a fait du bien.
Oui, ça m'a fait du bien. J'attendais, parce que je vous ai appelé hier. J'attendais avec impatience ce soir pour pouvoir vous parler.
Qu'on parle de tout ça.
Parce que j'avais besoin, donc du coup je vous ai rappelé et je suis très content de vous avoir eu au téléphone.
Vous avez l'intelligence et la compréhension nécessaires pour avancer maintenant. Vous avez compris plein de choses.
Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne nuit.
Merci Ludovic, je vous embrasse.
Merci, au revoir.
Au revoir. La Libre Antenne se termine pour ce soir. Un grand merci à tous ceux qui sont venus prendre la parole. Pardon à tous ceux qui sont encore en attente, qu'on n'a pas eu le temps de prendre. Merci à vous qui êtes intervenus par SMS. Dimanche prochain, je vous propose que nous abordions le thème de l'adoption. Chaque année, environ 5000 enfants sont adoptés en France, on le sait. C'est un parcours long et complexe, une aventure humaine hors du commun qui débouche sur des histoires quelquefois très belles, quelquefois moins. Vous avez adopté un enfant, vous êtes un enfant adopté, venez nous en parler en toute sincérité dimanche prochain sur la Libre Antenne. Vous pouvez déjà vous inscrire par mail à l'adresse suivante libreantenne@europe1.fr. L'adoption dimanche prochain sur Europe 1. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine. Demain soir à 22h30, vous retrouverez Sophie Peters. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir vendredi prochain. Prenez bien soin de vous et passez une bonne nuit sur Europe 1 avec les programmes de la nuit. Il est 1h du matin.